Les Amazones mythiques, ensorceleuses et sorcières comme Médée se vengeant de Jason, la reine Amazone pentésilée luttant contre Achille, mais aussi Judith contre Holofernes, aux figures plus récentes, telles que Thelma et Louise, Black Mamba, héroïne du film Kill Bill, Nikita, Arya dans Game of Thrones, la boxeuse de Million Dollar Baby, pour n'en citer que quelques-unes. Les figures de femmes violentes sont nombreuses dans les productions littéraires, cinématographiques, culturelles en général. Pourtant, au-delà de ces figures fictives, les femmes violentes existent aussi dans le monde réel. Des reines qui n'ont pas hésité à en venir au meurtre pour asseoir leur pouvoir, jusqu'aux résistantes, en passant par les sœurs Papin, les suffragettes, les combattantes, Maria del Carmen Garcia, Jacqueline Sauvage, mais aussi les tueuses en série, les terroristes, les mineurs criminels. Ces femmes violentes existent, celles qui s'emparent de la violence dans le monde réel pour parvenir à leur fin, quelle qu'elle soit. Elles suscitent en même temps fascination et aversion, elles sont décrites à la fois comme courageuses et monstrueuses, pourtant elles sont souvent passées sous silence. Une chose est sûre, ces femmes violentes n'en finissent pas d'éveiller des interrogations. Bonjour ou bonsoir à toutes et tous, vous écoutez Violente et à travers ce podcast on s'intéressera à ces figures, fictives ou réelles. Comment est-ce qu'elles sont représentées? Quel type de violence est-ce qu'elles utilisent? Qui sont leurs victimes? Font-elles preuve d'une violence première ou s'agit-il d'une riposte comme réponse à une violence antérieure qu'elles ont subie? Vengeance, ambition, révolution, les motivations et les violences sont diverses. Il s'agit donc de visibiliser ces femmes violentes trop longtemps et trop souvent cachées. Elles ont existé à travers les siècles, elles ont souvent été tuées. Il importe donc de mettre aussi en voix leur histoire. Bonjour ou bonsoir, merci d'écouter Violente, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode. Alors, un peu moins de deux semaines après la mort de Robert Badinter, l'homme ayant incarné le combat contre la peine de mort, on va parler ici de l'affaire de Germaine Leloi. C'est l'histoire d'un crime ordinaire, les annales judiciaires regorgent d'homicides conjugaux, mais qui prend une tournure extraordinaire. Germaine Leloi, condamnée à mort pour homicide conjugal, a été la dernière femme guillotinée en 1949 à la prison d'Angers. Le nom de Germaine Leloi, comme le montre l'historienne Catherine Valenti dans son livre Germaine Leloi, la dernière condamnée qui a été publié en 2021, a été presque effacé de la mémoire collective jusqu'à très récemment. Son histoire n'est pas aussi célèbre que celle de certains procès historiques qui ont défrayé la chronique, comme ceux de l'empoisonneuse Violette Nozière, par exemple, ou celle des assassines Sœur Papin. Ici, il s'agit de l'histoire d'une affaire banale, de crime conjugal, qui n'a pas retenu l'attention des chroniqueurs judiciaires ou de l'opinion publique. Il s'agit de l'histoire d'une femme du peuple condamnée à mort et qui n'a pas obtenu la grâce présidentielle. Son histoire refait peu à peu surface, d'abord dans les années 70, avec le développement de l'histoire sur le genre. Et donc, on se penche aussi sur les femmes criminelles, sur l'histoire des femmes en général, et donc de celles condamnées à mort également. Mais aussi, son histoire refait surface plus récemment encore, depuis une vingtaine d'années, avec l'intérêt croissant porté à la thématique des violences féminines. En 1947, 10 ans après leur mariage, alors qu'elle a 29 ans, Germaine Leloi tue son mari. Le meurtre survient le 10 décembre 1947 et c'est armée d'une hache qu'elle frappe son mari plusieurs fois à la tête alors qu'il dort. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Quels sont les ressorts de cette violence féminine? Et surtout, qu'est-ce que cette affaire nous dit de la situation des femmes et des préjugés de la société de l'époque envers les femmes violentes? C'est ce que je vais essayer de démêler aujourd'hui. Mais d'abord, reprenons depuis le début et résumons un peu les faits. Germaine Godefroy est née en 1917 dans le département de la Sarthe. Elle est issue d'une famille pauvre, ils sont 10 enfants dans le foyer, son père est alcoolique et bat sa mère. Pendant sa jeunesse, elle occupe des emplois de bonne dans de nombreuses fermes et commerces. Et en 1937, elle épouse Albert Leloi, de 4 ans son aîné, qui est un ancien agriculteur, un travailleur respecté, un fils de combattant de la Première Guerre mondiale. D'abord ouvrier agricole à la ferme des parents d'Albert Leloi, puis paysan de la région. Au moment de la libération, après la Seconde Guerre mondiale, ils font un emprunt et se lancent à leur compte. À deux, ils tentent leur chance dans une entreprise de vente de bois et de charbon. Alors, ils habitent rue du Cimetière à Bouger, une ville située à une 40 kilomètres à l'est d'Angers. Mais, pendant la décennie de leur mariage, des tensions se développent au sein du couple. Germaine Leloi reproche à son mari de manquer d'ambition. Une dispute a lieu quelques jours avant le meurtre entre Raymond, le commis et employé pour la livraison du bois et du charbon, mais qui se trouve aussi être l'amant de Germaine, et Albert, le mari. Le premier, donc Raymond, voudrait réparer leur camion alors que le second voudrait le vendre. Et c'est alors que le 10 décembre 1947, Albert Leloy est assassiné par des coups de hache dans le crâne. La police interroge sa femme, Germaine Leloy, qui raconte alors qu'une agression a eu lieu, que deux rôdeurs se sont attaqués à eux en même temps qu'ils les ont cambriolés. Toutes leurs économies, plus de 80 000 francs, ont été volées et son mari a été tué parce qu'il refusait de donner l'argent. Mais la police ne croit pas à cette version des faits et la mise en scène du lieu du crime, donc on a un coffret renversé qui avait contenu l'argent, le visage de Germaine Leloy aussi qui est tailladé à coups de rasoir alors qu'elle porte une tenue impeccable, tous ces détails font douter les policiers. Et alors, Germaine Leloy, dès le lendemain, change de version. Elle accuse d'abord Raymond Boulissière, son amant, le jeune commis. Ensuite, elle dénonce un de ses anciens amants, un dénommé Pierre. Finalement, moins de deux jours après le meurtre, après de longues heures d'interrogatoire, elle passe aux aveux. Germaine Leloy s'est débarrassée de son mari et a donné l'argent de leurs économies à son amant pour qu'il puisse effectuer les réparations nécessaires au camion. Dans le compte rendu du procès, il est déclaré que Germaine Leloy avait demandé à son amant d'affûter la hache et de raccourcir le manche quelques jours avant le meurtre. Elle a caché l'arme dans la maison, en toute discrétion, dans une caisse sous la cuisinière, et après le meurtre, elle nettoie la hache et la dissimule dans le camion. Elle évoque aussi aux policiers un crime préventif, c'est-à-dire qu'elle aurait assassiné son mari avant que son amant ne le fasse. Et ensuite, elle explique qu'elle a tué son mari parce qu'elle voulait partir avec Raymond Boulissière, son amant, qui est de 12 ans plus jeune qu'elle. Les deux amants sont alors inculpés pour homicide volontaire, avec préméditation et vol avec recel, et ils sont incarcérés à la prison d'Angers. Ils sont finalement jugés devant la cour d'assises de Maine-et-Loire le 26 novembre 1948, 11 ans après les faits. Le procès ne dure pas longtemps, il commence vers 14h30 et se finit en début de soirée. Et Raymond Boulissière est reconnu complice de meurtre et bénéficiant de circonstances atténuantes, il est condamné à 10 ans de travaux forcés, selon le journal Le Courrier de l'Ouest qui est paru le lendemain du procès, le 27 novembre. Il est alors envoyé à la maison centrale, l'établissement pénitentiaire de Frontevaux. Quant à Germaine Leloy, malgré la défense de son avocat maître Yves Loison, le procureur et le jury, exclusivement masculins, ne lui trouvent aucune excuse. Ils délibèrent à peine un quart d'heure et Germaine Leloy est condamnée à mort. Le 21 avril 1949, dans la maison d'arrêt d'Angers, elle est réveillée à 4h30 par le substitut général Mittard qui lui annonce que le président de la République lui a refusé la grâce. Elle échange avec l'aumônier Moreau, elle rédige une lettre de confession, elle assiste à la messe, ses cheveux sont coupés, elle refuse le verre de rhum et la cigarette qu'on lui propose. Et elle arrive alors devant la guillotine et devant son bourreau, le professionnel Jules-Henri Desfourneaux, qui a déjà exécuté une centaine de condamnés avant elle et qui est accompagné de deux aides. À cette époque, les exécutions capitales ne sont plus publiques et pourtant, les magistrats qui, selon la loi, auraient dû être présents ne sont pas là. Par exemple, l'avocat général, celui qui a requis la peine de mort, est remplacé par le substitut Mittard. Le président de la cour d'assises, celui qui avait prononcé le verdict, se fait remplacer aussi par un conseiller. Et même son avocat, maître Loison, s'est fait représenter par un confrère, maître Jean-Paul Rial. Et c'est finalement à 5h50 du matin que Germaine Loison est guillotinée. Et elle est la dernière femme condamnée à mort à être exécutée en France. Maintenant qu'on connaît les faits, on va regarder d'un peu plus près en quoi cette affaire nous renseigne sur les normes de genre de l'époque, sur la vision que l'opinion publique se fait des femmes, de leur rôle dans la société et comment sont perçues notamment les femmes violentes. Donc d'abord, le procès qui a eu lieu souligne avec clarté les normes imposées aux femmes de l'époque et à quel point celles qui transgressent ces normes sont vues comme des marginales et même comme des monstres. Alors avant ce procès, il y avait eu une instruction qui a duré de décembre 47 à novembre 48, donc 11 mois pendant lesquels Germaine Leloy doit répondre aux questions des magistrats et se soumet à des expertises, donc notamment de médecins, qui à cette époque, rappelons-le, est un monde exclusivement masculin. Et pendant ces interrogatoires, Germaine Leloy admet qu'elle a eu plusieurs amants pendant son mariage sans en préciser le nombre. Et de même, lors du procès, elle est dépeinte comme une femme peu intelligente qui a quitté l'école à 11 ans pour travailler comme domestique. Elle est qualifiée de chicanière et peu douée pour les études. Sa moralité et sa conduite douteuse lui sont reprochées. Donc déjà, sans même évoquer le meurtre de son époux, son comportement est jugé comme scandaleux. alors que son mari, d'un autre côté, est considéré comme un homme sérieux, moral, paisible, alors que deux témoignages évoquent qu'il aurait battu sa femme. Mais finalement, l'instruction conclut que c'est la sexualité débridée et la cupidité qui sont les motifs du meurtre. Et c'est une théorie qui, comme le souligne Catherine Valenti, correspond aux thèses de criminologie développées depuis la fin du XIXe siècle sur le tempérament des femmes criminelles. C'est-à-dire que, en fait, elles opèrent une double transgression parce que, d'un côté, elles rompent avec la supposée fragilité et douceur des femmes, et d'un autre côté, elles ne respectent pas la hiérarchie des genres et la soumission à la loi qui a été édictée par des hommes. Et de ce fait, les femmes qui tuent leur mari sont dans la transgression et on remarque que l'ordre établi dans lequel normalement le mari domine est remis en cause par cette violence féminine. Et cette transgression apparaît clairement dans le fait que beaucoup de femmes exécutées le sont parce qu'elles ont tué leur mari, alors que, inversement, peu d'hommes sont guillotinés pour avoir tué leur femme. Et pourtant, quand on regarde dans les archives judiciaires, il y a davantage d'hommes qui tuent leur femme que de femmes qui tuent leur époux. Mais comme cet acte paraît plus transgressif quand c'est une femme qui l'accomplit, elles sont davantage condamnées. Et dans cette affaire, la violence féminine dont fait preuve Germaine Leloy apparaît d'autant plus transgressive qu'elle n'a pas utilisé l'arme traditionnelle des femmes, le poison, mais une hache. Elle arrive donc à un autre degré encore de subversion des normes. Et on peut voir aussi que la justice fait preuve d'un mépris social envers cette femme d'origine rurale et pauvre, puisque les hommes qui constituent le jury n'ont pas la même origine sociale, ils ne sont pas issus du milieu agricole et rural comme les époux Leloy. Et dans le dossier d'instruction et le rapport de l'expert psychiatre, sont également présentés des préjugés, et notamment des préjugés sociaux. Donc Germaine Leloy est issue d'une famille avec un père alcoolique qui bat sa femme, il y a une dizaine d'enfants dans le foyer, ils sont très pauvres, ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, et donc cela aurait pu jouer comme une circonstance atténuante, mais finalement, en fait, c'est plutôt retenu contre elle. Ce qu'on retrouve aussi en filigrane de tout le procès, c'est la question sexuelle. Un expert, pendant le procès, affirme que Germaine Leloy aurait d'importants besoins sexuels. Et ça aussi, ça ne rentre pas dans l'image féminine traditionnelle. Elle est considérée vraiment comme une femme de mauvaise vie. Et ça fait partie d'une sorte de double morale que dénoncent déjà les féministes de la Troisième République, c'est-à-dire qu'il y a une morale qui vaut pour les hommes et il y a une morale qui vaut pour les femmes. Alors il y a les hommes d'un côté qui sont encouragés à découvrir précocement la sexualité, à s'initier par exemple dans des maisons closes, et l'adultère masculin est moins puni par la loi que l'adultère commis par des femmes. Dans le code pénal de 1810, le crime pour adultère est davantage puni quand il est commis par une femme que par un homme. Et il était évoqué à cette époque donc la protection de la filiation et de la famille pour justifier en fait cette différenciation, c'est-à-dire que l'adultère féminin est considéré plus grave parce qu'il risque d'introduire un bâtard dans la lignée, et donc il y a une sévérité plus grande contre les femmes adultères. Mais donc concernant cette double norme, donc d'un côté on a des hommes encouragés à pratiquer librement leur sexualité, et d'un autre côté, des femmes qui doivent être douces, passives, ne pas avoir de gros besoins sexuels, elles doivent avoir une sexualité restreinte dans le cadre du mariage. Et ce n'est absolument pas le cas de Germaine Leloy, qui a des amants avant d'être mariée, alors que la norme est d'arriver vierge au mariage, mais aussi pendant qu'elle est mariée. Et vient aussi s'ajouter à cela qu'elle n'a pas d'enfant. Donc, pour résumer, Germaine Leloy est vue comme une femme marginale, et puisqu'elle est insoumise, infidèle, n'a pas d'enfant, elle ne correspond pas aux normes de son genre. Elle incarne le type de la mauvaise femme, et c'est un décalage qui se transforme en transgression profonde lorsqu'elle assassine son mari. Ensuite, si on regarde la manière dont la justice est rendue, on voit combien les stéréotypes de genre transparaissent également dans le cadre de l'exercice judiciaire, et notamment de l'application de la loi. Donc on l'a dit, le président de la République de l'époque, c'est-à-dire Vincent Auriol, lui refuse la grâce, malgré le fait que son avocat, Yves Loison, soit venu jusqu'à Paris pour essayer de plaider sa cause. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que depuis le début du XXe siècle, la peine capitale n'était en principe plus appliquée à l'encontre des femmes. En fait, il y avait une sorte de tradition judiciaire présidentielle qui réduit la peine de toutes les femmes condamnées à mort en remplaçant leur condamnation par une réclusion criminel à perpétuité. Et depuis 1887, avec l'exécution sur la place publique de Georgette Thomas, une femme qui avait brûlé vive sa mère car elle la croyait possédée, donc de cette exécution en 1887 jusque Vichy, aucune des femmes condamnées à mort n'a été exécutée, elles ont toujours été graciées. Et Catherine Valenti évoque ce sujet en disant que certains historiens parlent d'une abolition féminine de fait de la peine de mort, pendant une grande partie de la Troisième République et le début du régime de Vichy, parce qu'elles y échappaient à chaque fois. Donc, en fait, il y a une plus grande indulgence envers les femmes criminelles qui est observée depuis la fin du XVIIIe siècle, et elle vient en fait notamment du préjugé qui pèse sur les femmes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas des êtres doués de raison, donc elles sont emportées par leur passion, donc on a tendance à leur pardonner leurs écarts. Par rapport aux hommes, elles n'ont pas cette capacité de raisonnement qui leur permettrait d'avoir pleinement conscience de leurs actes. Et c'est Pétain en fait qui met un terme à cette abolition de fait en consentant à l'exécution d'une condamnée à mort, une prénommée Élisabeth Lamouly, qui avait empoisonné sa mère et son mari. Et ensuite, à la libération, les exécutions de femmes continuent, et pendant les années 40, il y en a eu 8 en France, 9 si on compte Madeleine Mouton qui a été exécutée en Algérie française pour avoir empoisonné une dizaine de personnes. Donc, sous l'État français, Pétain refuse de gracier 5 femmes, dont la plus célèbre c'est Marie-Louise Giraud qui a été condamnée à mort pour avoir pratiqué 27 avortements. Mais même après Vichy, dans la continuité de ses actions, certaines femmes continuent à être exécutées comme si l'acte s'était en quelque sorte normalisé, et Vincent Auriol, le premier président de la 4ème République, refuse de gracier 4 autres femmes pour crimes de droit commun, et Germaine Leloy est la dernière femme décapitée en France. Après elle, d'autres femmes sont encore condamnées à mort, mais leur peine a toujours été commuée en réclusion criminelle à perpétuité. La dernière femme condamnée à mort, c'est en 1973 Marie-Claire Emma qui a été graciée par le président Pompidou. Alors le 12 décembre, c'est-à-dire 2 jours après le meurtre, quand éclate vraiment l'affaire Leloy dans la presse, un journaliste, en mettant en avant l'argument du droit de vote récemment acquis par les femmes, écrit que maintenant que les femmes sont citoyennes, elles ont les mêmes droits que les hommes, donc elles encourent aussi les mêmes peines. Ce qu'il implique, c'est qu'il y a une forme de justice, entre guillemets, parce qu'elles veulent l'égalité, elles auront aussi l'égalité face à la mort. Pourtant, c'est à moitié faux, puisque judiciairement parlant, les femmes de toute façon encouraient déjà les mêmes peines que les hommes, mais c'est dans l'application de la peine qu'il y avait bien une différenciation et qu'elles pouvaient bénéficier d'une grâce ou de circonstances atténuantes. Mais il y a bien cette idée dans l'opinion publique d'après-guerre que maintenant que la société est égalitaire, les femmes doivent payer leurs crimes de la même façon que les hommes. Mais on peut voir aussi que même si la condition des femmes s'est certes améliorée à la fin de la guerre, avec le droit de vote notamment, ce droit de vote finalement ne change pas grand-chose à leur vie quotidienne puisque leur horizon social, ça reste le mariage, qui reste aussi un contrat inégalitaire, puisque à cette époque, les femmes n'ont pas l'autorité parentale sur les enfants. Elles ne peuvent pas ouvrir également de compte en banque, par exemple. Donc, finalement, la société des années 40 reste encore profondément patriarcale. C'est une société qui est toujours inégalitaire. Donc, cette égalité prétextée face à la mort, ce n'est vraiment qu'un faux argument. Ce crime et l'affaire, le procès qui ont suivi, ont été quasiment passés sous silence par la presse nationale qui habituellement raffole de ce genre d'affaires. Et pourtant, elle ne fait pas la une des journaux, elle est résumée dans des articles assez courts qui paraissent surtout dans la presse régionale et locale, mais donc ça ne prend pas une grosse ampleur. Et donc, pourtant, même à l'échelle locale, on peut voir combien les stéréotypes de genre sont profondément inscrits également dans la façon de parler de l'affaire. Se pencher sur les articles de presse concernant ce crime, c'est aussi se retrouver face à la représentation des femmes de l'époque et notamment des femmes violentes. Donc même si ça n'a pas été très relayé, il y a quand même eu des articles et des mots ont été employés pour la décrire et c'est ça aussi qui est intéressant et qu'on va voir maintenant. Donc la presse locale décrit la meurtrière comme une femme froide, mutique et absente, comme une femme monstrueuse et insensible. Et on retrouve de nombreux clichés sur les femmes et le crime dans ces articles-là. Et par exemple, donc dans le Courrier de l'Ouest, il est écrit « Le regard morne, l'air dur, elle répond aux questions du président ». Dans la Nouvelle République, on lit « Cette petite femme à l'œil sec, au cœur dur, n'aura pas mis beaucoup d'ardeur pour tenter de sauver sa tête ». Dans l'hebdomadaire Le Beaujois, les journalistes écrivent « Ce monstre qu'on a peine à appeler encore du nom de femme ». L'avocat général, de son côté, a prononcé les mots suivants « Certes, elle est femme, mais elle a agi avec plus de détermination, plus de cynisme et plus de cran que beaucoup d'hommes ». Donc on voit bien aussi cette difficulté à admettre deux réalités qui ne semblent pas pouvoir exister ensemble, c'est-à-dire que d'un côté on a une femme et de l'autre on a une personne ayant violemment tué son mari et faisant preuve d'une insensibilité déroutante. Dans le journal Le Courrier de l'Ouest, le lendemain de l'exécution, On lit le titre suivant. Germaine Godefroy, qui avait assassiné son mari à coups de hache, a été guillotinée hier matin à Angers. De Germaine Leloy, elle redevient donc Germaine Godefroy. Elle perd son droit à porter le nom de son mari. Et les journaux locaux avaient également rapporté que Germaine Leloy avait marché vers la mort avec calme, comme un automate. Ce qui frappe le plus, donc, c'est qu'elle apparaît très froide. La presse utilise souvent l'expression « œil sec ». Et donc, l'attitude de l'accusée a beaucoup d'importance, notamment chez les femmes. On s'attend à ce qu'elle pleure, à ce qu'elle manifeste des émotions, ce qui serait habituel pour les femmes. Et c'est pas ce qu'on retrouve ici, en fait. Et c'est ce qui surprend beaucoup, c'est qu'elle ne montre aucune émotion. Et le seul moment dans l'affaire où elle exprime vraiment quelque chose, c'est le jour de la reconstitution de l'acte, un jour et demi après le meurtre. Et à ce moment-là, elle est décrite dans la presse comme étant au bord de l'évanouissement. Elle n'arrive pas à refaire le geste meurtrier. Et c'est le juge qui finit par mimer les coups de hache sur un mannequin. Après, on peut aussi se demander si les mots employés auraient été différents, s'il s'était agi d'un procès jugeant un homme, sans doute. Et la presse relaie ici des biais de genre, elle construit l'image d'une femme monstrueuse à l'aide d'adjectifs très subjectifs, et les journaux construisent en même temps qu'ils relaient ces représentations sur la violence féminine. C'est donc l'histoire de Germaine Leloy, la dernière femme guillotinée en France en 1949. C'est l'histoire d'une femme violente qui a assassiné son mari, mais également l'histoire de la violence des institutions qui choisissent de donner la mort à cette femme. Et l'affaire Leloy est aussi révélatrice des relations entre les hommes et les femmes à cette époque, à l'échelle intime et dans l'espace public. Elle témoigne de la sévérité exceptionnelle de la justice envers les femmes dans les années 1940, et elle nous montre aussi comment sont considérées celles qui ne s'inscrivent pas pleinement dans leur rôle d'épouse et de mère douce et attentive, et combien commettre un assassinat est pour une femme plus que pour un homme hautement transgressif. C'était Violente, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager, à vous tenir au courant de l'actualité de Transistor sur la page Instagram ou sur le site internet transistor.fr. Bonne journée ou bonne soirée, et à bientôt pour un nouvel épisode.
Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Il crie, il pleure et il s'indigne de cette immonde mise à mort, mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore.